Et bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode et aujourd'hui j'aimerais vous parler de John Lennon et la méditation. En 2009, je suis allé en Inde, j'ai pris 5 semaines, c'est la première fois que je prenais des vacances aussi longues, j'avais un cabinet et j'avais trouvé pour la première fois quelqu'un qui pouvait me remplacer, donc un remplaçant, et donc j'ai décidé de partir 5 semaines en Inde. C'était le mois de juillet, je suis arrivé là-bas, il faisait extrêmement chaud, je suis arrivé à Delhi dans la capitale, il faisait très humide, il devait faire 95% d'humidité, c'était extrêmement lourd, c'était pollué, c'était sale, donc c'était un choc au niveau des sens lorsque je suis arrivé dans cette capitale. Et dès le premier jour, je me suis dit, je ne vais pas rester ici, c'est sûr, il faut que j'aille près de la nature, il faut que je découvre d'autres parties de Londres. Ce qui est bien, c'est que j'avais réservé qu'une nuit en me disant, je vais prendre un hôtel près de la gare, comme ça. La première nuit, je la passe à Delhi et je verrai où je vais aller après ce premier jour dans la capitale. Avant de partir, on m'avait parlé d'un village qui s'appelle Rishikesh et on m'a dit, c'est pas très loin de Delhi et tu peux faire des cours de yoga, des formations de yoga là-bas. Donc j'ai décidé le jour même de mon arrivée, j'ai pris un billet de train et je suis parti donc en direction de Rishikesh qui se trouve au nord de Delhi, à peu près 300 km au nord. Donc le lendemain je suis monté dans le train, je suis parti, je me suis arrêté à Hardiwar qui est une ville qui se trouve entre Delhi et Rishikesh. Et cette ville, elle accueille la Kumbh Mela, qui est le plus gros pèlerinage du monde en termes de personnes qui assistent. Je crois que ça a lieu tous les 4 ans. Lorsque j'y étais, il n'y avait rien, donc autrement ça aurait été très compliqué. Donc j'ai passé une nuit dans cette ville, Hardiwar. Et ensuite, le lendemain, je suis arrivé à Rishikesh. Alors Rishikesh, c'est un village qui se trouve sur le bord du Gange. On est au pied des Himalayas, donc ça commence à être vallonné. Il y a beaucoup de temples, donc c'est un endroit considéré comme sacré, une ville sacrée. C'est végétarien, il n'y a pas d'alcool, il y a des temples donc un peu partout. Et la ville s'organise autour des temples. Et même dans Rishikesh, il y a beaucoup de pèlerins qui viennent jour après jour pour visiter les différents temples, les différentes croyances qui sont dans ce petit village qu'est Rishikesh. Et dès que je suis arrivé, j'ai réalisé que je n'étais pas le seul étranger à aller là-bas. Il y avait beaucoup d'étrangers autour de moi, des personnes avec des sacs à dos, des jeunes, des moins jeunes, des groupes, des personnes qui voyageaient en solo comme moi. J'en suis passé plusieurs semaines sur place, j'ai rencontré pas mal de monde, pas mal de voyageurs, j'ai rencontré des locaux, j'ai fait mes formations, des cours de yoga, de méditation. Et un jour que j'étais à vélo, j'avais loué un vélo pour me déplacer, un Indien m'arrête et me dit, est-ce que tu aimerais visiter le temple des Beatles, le temple où les Beatles ont fait une retraite. Donc il m'a amené dans un endroit où se trouvait le temple de Maharshi, qui était le gourou des Beatles. Et les Beatles, bien sûr, je ne vous les présente pas. On passait plusieurs semaines là-bas. Ça a été pour eux une expérience incroyable. Ils ont écrit parmi leurs meilleurs morceaux, ils les ont écrits lorsqu'ils étaient là-bas. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert une lettre qu'avait écrite John Lennon à partir de ce temple à une certaine Beth qui lui avait écrit, qui lui demandait quel était le lien entre la méditation et comment la méditation s'imbriquait dans les autres religions. Et je peux vous lire cette lettre. Alors John Lennon, il écrit « La méditation n'est pas opposée aux autres religions. Elle est fondée, elle est basée sur une vérité qui concerne toutes les religions. Elle est fondée sur un dénominateur commun. Jésus disait bien que le royaume des cieux était en soi. » Et ce qu'il voulait dire, c'était que le royaume des cieux était accessible, était à portée de main, était accessible dès maintenant. La méditation, John Lennon continue, permet de prendre votre esprit et l'amener à un niveau de conscience qui est proche de la béatitude, donc entre guillemets ou entre parenthèses, il met proche du paradis. Et en développant ce contact avec cet état, la paix qui dépasse toutes les autres connaissances, en faisant cette pratique, on peut graduellement établir cet état même lorsqu'on n'est pas en train de méditer. Donc John Lennon communiquait son appréciation, son intérêt pour la méditation. Et ce qui s'est passé, en y pensant après, c'est que ce petit village qui autrement aurait été complètement inconnu, ce petit village qui se trouvait dans la nature, qui se trouvait loin des grandes villes, certainement n'aurait pas été aussi connu par les étrangers, même s'il est connu par rapport à ses temples pour les Indiens, mais pour les étrangers, l'expansion de ce village, le fait qu'il attire de plus en plus de monde, qu'il y ait de plus en plus de retraites, d'ashrams, où les gens, où les étrangers des États-Unis, d'Occident, d'Europe, d'un peu partout dans le monde, allaient là-bas, c'est grâce en grande partie aux Beatles qui ont vraiment mis la lumière sur Maharishi et sur son temple et sur son ashram et sur son enseignement. Et cela a en partie contribué à amener une forme de la méditation, donc c'était ce qu'on appelle aujourd'hui la méditation transcendantale, ça a contribué à l'amener aux États-Unis et en Europe. Donc dans ce cas, c'est vraiment un groupe de musique qui était extrêmement connu, qui a mis la lumière sur cet enseignement, qui a aidé au développement de la méditation transcendantale en Occident. Après, j'ai pensé qu'il y avait aussi d'autres influences. Vous avez à l'opposé d'un ashram, d'un enseignement qui est proposé par un gourou, on a quelque chose de beaucoup plus terre à terre, de beaucoup plus scientifique, comme avec John Kabat-Zinn, qui a développé le mindfulness, le MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, aux États-Unis dans les années 70. Il a mis ça en place dans les hôpitaux. Aujourd'hui, la pleine conscience s'est enseignée à travers le monde. Donc, c'est une méthode basée sur 8 semaines qui est vraiment ancrée dans la science et dans la recherche. Après, vous avez aussi le bouddhisme avec des personnalités comme le Dalai Lama ou comme un Mathieu Ricard qui est son ambassadeur, on peut dire son ambassadeur en France, qui aussi ont contribué à développer l'intérêt pour la méditation. Donc tous ces différentes influences, que ce soit scientifique, que ce soit des traditions, que ce soit des célébrités, ont fait que la méditation petit à petit se propage de plus en Occident, et vous en avez certainement fait l'expérience, on en parle de plus en plus, que ce soit dans les émissions de télé, les livres, parmi les livres les plus vendus, les plus populaires, c'est des livres qui portent sur la méditation, les livres de Christophe André, de Mathieu Ricard. On en parle dans les magazines, donc on en parle de plus en plus. C'est aussi utilisé maintenant dans le milieu professionnel, dans le monde de l'entreprise, dans les écoles, même dans les prisons. Et il n'y a pas très longtemps, je faisais un entretien et on me demandait est-ce que tu penses que la méditation, c'est un phénomène de mode ? Et ma réponse était loin de là, c'est ni quelque chose de nouveau et c'est ni quelque chose qui est là temporairement. Je pense que déjà, je sais que la méditation existe depuis des millénaires et qu'elle grandit de plus en plus, qu'elle touche de plus en plus de monde. Et je pense aussi que la raison pour laquelle il y a cette expansion, c'est qu'elle répond à un réel besoin, c'est qu'elle répond à une réelle nécessité. Et ce n'est pas quelque chose qui est passager comme un phénomène de mode, mais qui, je crois, va au contraire s'enraciner de plus en plus. Et peut-être que dans 10-15 ans, dans l'école, on va méditer comme on fait du sport, et que ça sera quelque chose qui va rentrer de plus en plus dans les mœurs. Donc c'est une bonne chose, cette expansion de la méditation, surtout à notre époque où on est surstimulé, où parfois on a l'impression que les journées sont de plus en plus remplies, qu'il y a de plus en plus de choses à faire. En plus, les choses sur lesquelles on s'appuyait, on doute, on commence à douter d'elles au niveau des religions, au niveau de la culture, de l'éducation qu'on a eue, ou des principes qui nous ont été inculqués par rapport à notre culture ou par rapport à la famille, les visions politiques, toutes ces choses-là, les gens, ils n'arrivent plus trop à prendre appui dessus parce que ça change tellement que développer un outil, une technique, un art pour pouvoir se connecter à soi, pour pouvoir se connecter à la partie en soi qui est plus apaisée, qui sait, qui est connectée au reste, c'est, je pense, quelque chose d'essentiel. Et c'est, je pense, aussi pourquoi, l'une des raisons pour laquelle il y a cette expansion de la méditation. Ça peut commencer, c'est quelque chose qui va être inspiré par des chanteurs qui viennent d'Angleterre, ça peut être un chercheur aux États-Unis, ça peut être un Thich Nhat Hanh qui nous vient du Vietnam, Gunaratana, qui a présenté aussi la mindfulness, la pleine conscience. Donc ces différents enseignements, ces différents moyens par lesquels la méditation arrive et se fait connaître, je ne pense pas que ce soit un hasard et je pense que c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. Voilà, donc j'ai voulu partager avec vous cette vidéo Après avoir découvert cette lettre de John Lennon qui m'a fait repenser à mon voyage, à ce voyage assez exceptionnel que j'ai eu l'opportunité de faire en 2009 en Inde. Et maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est vous demander votre avis. Est-ce que vous pensez que la méditation est un phénomène de mode? Est-ce que vous pensez qu'au contraire, elle est là pour durer? Il vous suffit de laisser un commentaire sous cette vidéo. Merci et à très bientôt.